Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 4. Le conseil de guerre se réunit à 2 heures dans la plus spacieuse des deux isbas qui appartenaient à un nommé André Sevatianov. Les paysans, les femmes et de nombreux enfants se pressaient devant la porte de l'autre isba. La petite fille d'André, Malacha, âgée de 6 ans, que son Altesse avait embrassée et à laquelle il avait donné un morceau de sucre, était seule restée blottie sur le poêle de la grande chambre, à regarder curieusement et timidement les uniformes et les croix des généraux qui entraient l'un après l'autre et allaient s'asseoir sous les images. Le grand-père, ainsi que Malacha appelait Kutuzov, était assis à part dans l'angle obscur du poêle. Affaissé dans son fauteuil de campagne, il témoignait de son agacement tantôt en lançant des interjections étouffées, tantôt en tortillant nerveusement le collet de son uniforme, qui, quoique ouvert, semblait le gêner. Il serrait la main à quelques-uns des survenants et saluait les autres. Son aide de camp, Kaïsarov, fit un pas en avant pour tirer le petit rideau de la fenêtre qui était en face de son chef, mais, à un geste d'impatience de Kutuzov, il comprit que son Altesse désirait rester dans le demi-jour pour ne pas laisser voir sa physionomie. Il y avait déjà tant de monde autour de la table en bois de sapin, couverte de plans, de cartes, de papiers et de crayons, que les domestiques militaires apportèrent encore un banc, sur lequel s'assirent les derniers venus, Yermolov, Kaïsarov et Toll. À la place d'honneur, juste sous les images, se tenait Barclay de Tolly, la croix de Saint-Georges au cou. Sa figure pâle et maladive, avec son grand front, que sa calvitie rendait encore plus proéminent, trahissait les angoisses de la fièvre dont il ressentait en ce moment même le violent frisson. Ouvarov, assis à côté de lui, lui racontait quelque chose à voix basse, avec des gestes saccadés. Personne, du reste, ne parlait haut. Le gros petit Doktourov, les sourcils relevés et les mains croisées sur la poitrine, écoutait avec attention. En face de lui, le comte Ostermann Tolstoï, appuyant sur son coude sa tête aux traits hardis et aux yeux brillants, paraissait absorbé dans ses pensées. Raïevski, de son geste habituel, ramenait sur ses tempes ses cheveux noirs, qu'il enroulait autour de ses doigts, et jetait des regards impatients vers Kutuzov et vers la porte. La belle et sympathique physionomie de Konovnitsyn s'illuminait d'un aimable sourire, car il avait surpris le regard de Malacha et s'amusait à lui faire des petits signes auxquels elle répondait timidement. On attendait Bennigsen qui, sous prétexte d'inspecter une seconde fois la position, achevait tranquillement chez lui son succulent dîner. 2 heures, de 4 à 6, se passèrent ainsi en causerie à voix basse, sans qu'on prît aucune décision. Lorsqu'enfin Bennigsen arriva, Kutuzov se rapprocha de la table, mais de façon à ne pas laisser éclairer ses traits par les bougies qu'on venait d'y déposer. Bennigsen ouvrit aussitôt le conseil en formulant la proposition suivante.
« Devons-nous abandonner sans combat l'antique et sainte capitale de la Russie ou bien devons-nous la défendre ?»
Un long et profond silence succéda à ces paroles. Tous les visages se contractèrent, tous les yeux se tournèrent vers Kutuzov, qui, les sourcils froncés, toussaillait et s'efforçait de surmonter son émotion. Malacha l'observait aussi.
« L'antique et sainte capitale de la Russie »
répéta-t-il tout à coup avec colère et en accentuant les mots pour en bien faire ressortir la fausse note.
« Vous me permettrez de dire à votre Excellence que cette phrase n'offre aucun sens à un cœur russe. Ce n'est pas ainsi que doit être posée la question pour la discussion de laquelle j'ai réuni ces messieurs. Elle est purement militaire et la voici. Le salut du pays étant dans l'armée, est-il plus avantageux de risquer de la perdre et Moscou avec, en livrant bataille ? Ou de se retirer et d'abandonner la ville sans résistance. C'est là-dessus que je désire connaître votre avis. »
Les discussions commencèrent. Bennigsen, qui ne se tenait pas pour battu, admit l'opinion de Barclay et trouva comme lui qu'il était impossible de défendre la position de Philly. En conséquence, il proposa de faire passer pendant la nuit les troupes du flanc droit au flanc gauche, afin d'attaquer l'aile droite de l'ennemi. Les opinions se partagèrent, on discuta le pour et le contre. Ermolov, Doktourov, Raïevski soutinrent Bennigsen. Pensait-il qu'un sacrifice était nécessaire avant d'abandonner Moscou? Ou bien avait-il en vue d'autres considérations personnelles? Il ne semblait pas comprendre que leur réunion ne pouvait plus arrêter la marche fatale des événements. Par le fait, Moscou était abandonné. Les autres généraux le voyaient clairement et ne discutaient plus que sur la direction à faire prendre à l'armée dans sa retraite. Malacha, qui regardait de tous ses yeux, expliquait autrement ce qui se passait. Elle croyait qu'il s'agissait d'une querelle entre le grand-père et l'habit au long pan, comme elle désignait à part elle Bennigsen. Elle voyait qu'ils s'irritaient l'un contre l'autre, et dans le fond de son petit cœur, elle donnait raison au grand-père. Elle saisit au vol un coup d'œil perçant et rusé jeté par ce dernier sur Bennigsen, et fut toute ravie de lui voir remettre à sa place son adversaire, qui rougit et fit quelques pas dans la chambre. Les paroles que Kutuzov avait prononcées d'une voix calme et mesurée à l'adresse de Bennigsen exprimaient une désapprobation complète.
« Je ne saurais, messieurs, accepter le plan du comte, »
dit Kutuzov.
« Faire changer de position à une armée dans le voisinage immédiat de l'ennemi est toujours une opération dangereuse. L'histoire est là pour le confirmer. Ainsi, par exemple... »
Il s'arrêta, comme pour rassembler ses souvenirs, reportant ensuite un regard clair et d'une candeur affectée sur Bennigsen.
« Par exemple... Si la bataille de Friedland, que vous devez vous rappeler, comte, n'a pas été à notre avantage, c'est précisément à cause d'une conversion semblable. »
Un silence d'une minute, qui parut éternel, pesa sur l'assistance. Les discussions reprirent ensuite à bâton rompu, mais on sentait que le sujet était épuisé. Tout à coup, Kutuzov soupira. Comprenant qu'il allait parler, tous les généraux se tournèrent vers lui.
« Eh bien, messieurs, je vois que c'est moi qui paierai les pots cassés. J'ai écouté les opinions de chacun. Je sais que quelques-uns ne seront pas de mon avis, mais... »
ajouta-t-il en se levant.
« En vertu du pouvoir qui m'a été confié par l'empereur et la patrie, je commande la retraite. »
Les généraux se dispersèrent dans un silence solennel, comme celui qui accompagne d'ordinaire les prières des morts. Malacha, qu'on attendait depuis longtemps à souper, descendit lentement et à reculons de la soupente en se cramponnant de ses petits pieds nus aux saillies du poêle, et, se faufilant prestamment entre les jambes des généraux, elle disparut par la porte entrebâillée. Kutuzov, après avoir congédié les membres du conseil, resta longtemps appuyé sur la table à réfléchir à ce terrible problème, se demandant de nouveau où et comment s'était décidé l'abandon de Moscou et à qui il pouvait être imputé.
« Je ne m'y attendais pas, »
dit-il à son aide de camp Schneider, qui venait d'entrer chez lui à une heure avancée de la nuit.
« Je n'aurais jamais cru pareille chose possible. Il faut vous reposer, Altesse, »
lui répondit l'aide de camp.
« Eh bien, on verra. Je leur ferai manger comme aux Turcs de la viande de cheval. »
dit Kutuzov en frappant la table de son poing, et il répéta
« Ils en mangeront, ils en mangeront !»